Alors, article 9. Trois types d'espaces législatifs distinctifs sont définis. L'espace collectif naturel, l'espace collectif optionnel et l'espace privé. L'espace collectif naturel ou espace public naturel est un espace géré par la collectivité, indispensable à tout citoyen pour exercer son droit naturel de déplacement. Les gestionnaires d'espaces collectifs naturels ne peuvent pas établir de règlement intérieur. L'usage d'un espace collectif naturel relève donc exclusivement de la loi générale. Deuxième type d'espace, l'espace collectif optionnel ou espace public optionnel. C'est un espace géré par la collectivité, non indispensable à tout citoyen pour exercer son droit de déplacement et dont l'accès relève d'un souhait particulier. Les gestionnaires d'espaces collectifs optionnels peuvent établir un règlement intérieur, sauf à contrevenir aux dispositions du code pénal. Troisième type d'espace, l'espace privé. L'espace privé est un espace géré par un citoyen ou un groupe de citoyens. Les gestionnaires d'espaces privés peuvent établir un règlement intérieur, sauf à contrevenir aux dispositions du code pénal. Alors, commentaire. La notion d'espace distinctif est totalement absente de la Constitution actuelle. Ce qui signifie que la loi peut indistinctement et sans limitation s'appliquer n'importe où. Le programme pour une société de la pré-croissance introduit des limites géographiques à la loi en déterminant des espaces spécifiques à chaque type de loi. Seule la loi pénale, c'est-à-dire la loi réprimant la nuisance objectivement mesurable, s'applique indistinctement à tous les espaces, en prévalant par ailleurs sur tous les autres types de règles coercitives de comportement. Ces autres types de règles coercitives de comportement sont dénommés règlements intérieurs. Dans le système actuel, la loi peut établir un nombre illimité de réglementations normatives dans l'espace privé. Elle a même créé un concept de droit exorbitant, l'ERP, établissement recevant du public, qui déroge au droit de propriété le plus élémentaire, tel qu'il est affirmé, le droit de propriété, tel qu'il est affirmé dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. L'ERP, type magasin, bureau, salle de spectacle ou autre, n'est en fait rien d'autre qu'un espace privé, auquel le propriétaire propose l'entrée et dans lequel le citoyen choisit librement de pénétrer ou non. Dans le programme pour une société de la pré-croissance, la notion d'ERP est abolie. Et tout citoyen peut proposer l'entrée dans son espace privé à des conditions qu'il peut dicter lui-même, sous réserve que ces conditions ne contreviennent pas à la loi pénale contre la nuisance objectivement mesurable. De même, aucune réglementation normative ne peut être édictée dans l'espace privé par quelqu'un d'autre que le propriétaire du dit espace, les seules obligations s'imposant à lui étant celles de la loi contre la nuisance objectivement mesurable. Bon, alors ça, c'est une rupture colossale.
Ouais, non, mais c'est clair, et puis ça. Enfin, on est en plein dedans en ce moment.
Ah ben, on est en plein dedans. Alors, au niveau de. Parce que. Alors, on va parler un peu de, on va parler un peu du pass. Parce que là, on est en plein dedans. Le problème du pass sanitaire. C'est, à mon sens, hein, bon là, c'est un débat libre. C'est pas un débat sur la liberté individuelle de se faire vacciner ou pas vacciner, puisque tant que la vaccination n'est, il faut bien reconnaître, la vaccination n'est pas obligatoire. Tant que la vaccination n'est pas obligatoire, bon, on peut pas dire que le pass, ce soit une atteinte à la liberté individuelle. Ce qui est une atteinte à la liberté individuelle, c'est l'ERP. C'est-à-dire le fait que les pouvoirs publics, c'est-à-dire le législateur, puissent légiférer à l'intérieur de l'espace privé. Bon, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que, par habitude, hein, bon, on s'en rend pas compte, mais l'intrusion de la loi publique dans l'espace privé est une chose qui prend une ampleur et c'est une tendance. Une tendance maligne qui prend de plus en plus d'importance. Ça a commencé déjà avec la loi non-fumeur. Lorsque, vous en souvenez sans doute, il y a quelques 10 ans, maintenant 10-15 ans, on a fait une loi, a été édictée. C'est les premières intrusions de la loi dans l'ERP. C'est l'obligation à tous les ERP d'interdire de fumer. On a très bien pu imaginer que le gestionnaire d'ERP, alors pour prendre cet exemple avec le programme pour une société de la pré-croissance, le gestionnaire de restaurant qui ne souhaiterait pas recevoir de fumeurs, ben, il écrit établissement non fumeur. Voilà. Donc là, il a le droit d'établir un règlement intérieur et de ne pas recevoir les fumeurs. Et par contre, celui qui reçoit les fumeurs, eh ben, il écrit établissement fumeur. Et ainsi, chacun a la liberté d'aller dans un établissement pour fumeurs, où il y a des fumeurs, où il peut y avoir des fumeurs. Et pour le pass sanitaire, c'est exactement la même chose. Hein, à savoir que si la loi publique n'avait pas le droit d'intervenir dans l'espace privé, eh bien, un certain nombre de restaurants prendraient l'initiative d'interdire l'entrée du restaurant à ceux qui n'ont pas le pass, et d'autres autoriseraient l'entrée de l'établissement à ceux qui n'ont pas le pass. Hein, bon. Et ainsi, la liberté individuelle serait respectée. Alors, l'intrusion de la loi dans l'espace privé, elle ne s'arrête pas à l'ERP parce que, de façon insidieuse, la loi, elle intervient même maintenant dans l'espace particulier. Par exemple, prenons la loi sur la hauteur des balcons, la hauteur des remparts des balcons. Tu construis ta maison, tu fais un balcon, bon, tu ne peux pas mettre une rambarde qui fait 70 cm de haut, il faut qu'elle fasse 93 cm.
Ouais.
Bon, c'est clairement une atteinte à la liberté individuelle qui est anticonstitutionnelle. L'espace privé, c'est l'espace privé. Alors, bon, pour clarifier les choses, parce que là, actuellement, on est avec la Constitution actuelle, on est dans un flou le plus total. La Constitution permet, par exemple, permet tout. Elle peut t'interdire de promener nu à l'intérieur de chez toi, si elle veut. C'est possible.
Ouais.
Il n'y a rien qui empêche de décréter ça. Il y a déjà la loi qui te rend responsable d'avoir donné à boire à quelqu'un qui vient chez toi si ce quelqu'un sort de chez toi et a un accident.
Ouais. À titre privé aussi, je crois que c'était dans les entreprises. Non, ça marche aussi à titre privé, ça ?
Oui.
Ah oui.
Mais bon... aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait des exemples extrêmement criants, mais les deux que je viens de citer, c'est-à-dire la hauteur des balcons et la responsabilité du propriétaire d'une maison s'il laisse sortir de chez lui quelqu'un qui a trop bu, bon, ça veut dire que... ça nous met dans une situation où on est fondé à craindre que ça puisse s'amplifier. En tout cas, s'il est possible...
C'est une déresponsabilisation, surtout.
Comment ?
C'est une déresponsabilisation.
Non, mais ça, la déresponsabilisation, c'est une chose. Bon, mais la possibilité de légiférer à l'intérieur de l'espace privé... C'est autre chose, c'est beaucoup plus grave.
Ouais. Non, mais je suis d'accord. Enfin, tu vois, moi, je suis vacciné. Alors après, on a une amie qui est toxicologiste qui a bossé sur le Pfizer et qui nous a expliqué les tenants, les aboutissants, les trucs. Elle a bossé dessus pour les essais. Donc, elle nous a dit que pour elle, il n'y a aucun souci avec le Pfizer, etc. Par contre, le pass sanitaire, moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. C'est... Voilà. Donc, autant anti-vaccin, bon, chacun pense ce qu'il en veut. Moi, j'ai été rassuré. Mais le pass sanitaire, c'est un truc, c'est fou, quoi. C'est inimaginable. Tu vas aller à un endroit, tout le monde veut t'accueillir, mais t'as pas le droit parce que t'as pas le pass. Enfin, je trouve ça dingue. Un restaurateur qui doit refuser des clients parce que le gars n'a pas de passe, je sais pas.
Justement, c'est un excellent exemple pour remettre à plat cette notion de RP. Cette notion de RP, elle est de droit exorbitant dans la mesure où elle n'a aucun fondement juridique.
Ouais.
Le RP, ça n'existe pas. Bon, alors, la loi, cette loi hein, qui a été votée par 140 députés à 14h du matin, elle liste voilà, les restaurants, les bars, les trucs. Enfin bon. On est typiquement dans une énumération de lieux privés. Bon, le RP, l'établissement recevant du public, ça n'a pas de fondement juridique. Il n'y a, y a pas de définition de l'ERP dans la Constitution, il n'y a pas de définition de l'ERP dans le corpus législatif, c'est-à-dire dans l'un des 74 codes juridiques, codes des sociétés, codes civils, codes pénales, codes de navigation maritime, codes de l'assurance, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous citer les 74. Qu'est-ce qui définit l'ERP? Alors, rien. Mais ça a commencé avec les trucs d'hygiène. C'est-à-dire qu'on a obligé les restaurants, par exemple, hein, les restaurants, on a dit, il faut que vous ayez des normes d'hygiène. Bon. Déjà, là, on est dans le cas type de l'intrusion de la loi à l'intérieur de l'espace privé, puisque obliger un espace privé qui reçoit que des gens qui sont consentants bon, à respecter un certain nombre de normes, bon, ça n'est pas fondé, il n'y a pas de fondement juridique à ça, il y a simplement une décision qui est prise et que personne n'a contesté d'un point de vue juridique.
Ouais.
Sans parler du bien fondé, du truc, à savoir, et si moi j'ai envie d'aller dans un restaurant où il y a des rats qui se baladent dans la cuisine, c'est mon problème, je prends le risque. Alors, bon, ça c'est quelque chose qui a été débattu, étudié depuis déjà pas mal de temps. Ce qui est mis en avant, c'est... Je reviens à ta réflexion sur la déresponsabilisation. Ce qui est mis en cause, c'est, en fait, nous voulons protéger le consommateur. Nous voulons protéger le consommateur. Nous partons du principe que le consommateur doit être protégé. Donc ça, c'est déjà un premier débat qui mérite d'être lancé. De quel... Bah, de, bon, qu'est-ce qui où y a-t-il dans la loi, où y a-t-il dans le corpus juridique, où y a-t-il dans la Constitution quelque chose qui dit qu'il faut que l'État s'occupe de protéger le consommateur?
Ouais.
Il n'y a rien. C'est une décision unilatérale. Le consommateur n'a pas demandé de protéger. D'autant plus que on peut très bien imaginer que le consommateur se protège lui-même par des labels. Alors on va prendre le cas des restaurants parce que c'est le cas le plus emblématique. Soit l'État dit, nous ne vous occupez pas si vous voulez aller au restaurant, nous nous occupons de tout. Il y aura des cuisines nickel, vous attraperez pas la colibacillose, etc., etc. Soit il y a des associations de consommateurs avec des labels comme il y a dans le domaine de l'agriculture, qui qui passent dans les restos et qui donnent le label machin. Et les restos affichent leur label. Moi, j'ai le label ça ou j'ai pas de label. Et le consommateur, du coup, devient beaucoup plus responsable. Il se met au courant des labels. Il sait que tel label est mieux que tel autre. Bon, ces deux philosophies de la, disons, de la défense du consommateur. Le consommateur se défend lui-même, se protège lui-même par rapport, enfin, disons, s'informe par rapport à l'offre commerciale qui lui est faite. Par le biais de labels et par le biais d'associations de consommateurs, ou bien il fait confiance à l'État. Mais, que ce soit l'un ou l'autre qui soit choisi, il faut voir quel est le cadre juridique. Or, il n'y a pas de cadre juridique pour que l'État intervienne dans un espace privé. Voilà. Bon, et ça, c'est un débat qui faut lancer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ERP, d'établissement recevant du public? Il s'agit d'établissements privés. Hein. On a quelqu'un qui est propriétaire des murs, on a quelqu'un qui décide lui-même de faire une certaine offre. Voilà, bon. C'est tout le cadre en fait, de la réglementation des professions qui est posé, mais au niveau, avec maintenant l'histoire du pass sanitaire, enfin, moi c'est ça que je vois surtout. Dans le cadre de cette affaire de passe sanitaire, c'est la question juridique qui est posée.
Une atteinte à la liberté.
Oui, mais une atteinte à la liberté qui n'est pas constitutionnelle. La Constitution, c'est une restriction de la liberté. Hein. Bon. C'est pas le fait qu'on restreigne la liberté, comme... Je pense que tu n'étais pas encore arrivé, parce que on disait avec Hugues que les constitutions, les corpus législatifs, ils ont été introduits à partir du moment où l'homme s'est sédentarisé et qu'il a pensé qu'il fallait réduire la liberté individuelle de chacun pour le bien commun de tous. Bon, ben à ce moment-là, on écrit les conditions dans lesquelles on peut restreindre la liberté individuelle. Bon, or là, il n'y a pas de fondement juridique, puisque on vient de le dire, par l'intermédiaire de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article, je crois, 7 ou 8 qui le reprend, qui reprend l'idée un petit peu plus loin, la loi ne peut interdire que des choses nuisibles. Bon. Ça veut dire que lorsque la loi interdit un restaurant d'ouvrir parce que sa cuisine elle n'est pas comme ci et pas comme ça, elle est interdite parce qu'il est nuisible. Bon, alors, maintenant, où est la nuisance? Bon, et la nuisance, à partir du moment où le consommateur décide d'acheter un produit ou un service. Bon. Il s'agit de savoir, est-ce que c'est à lui de s'assurer, de vérifier que le service est conforme, ou est-ce que c'est à l'État? Ça, c'est pas dit non plus. Bon. Dans l'état actuel des choses, rien ne dit dans le corpus législatif que l'État a en charge de vérifier la conformité de tous les produits et de tous les services qui sont vendus par le monde commercial. C'est un vide juridique, ça. C'est un vide juridique qui a été occupé progressivement par les décrets, par les ordonnances de l'État.
Ouais.
Parce que avant même de débattre, savoir s'il faut que ce soit l'État qui contrôle tout ou si c'est au consommateur à se débrouiller lui-même pour contrôler, il faut savoir si la loi permet à l'État de légiférer de cette façon. Or, elle ne le permet pas. La Constitution ne permet pas, puisque la Constitution dit très clairement si on interdit quelque chose, on ne peut interdire que ce qui est nuisible à la société. Alors après, effectivement, tant qu'on ne définit pas la nuisance, n'importe quel comité Théodule peut dire bah, ça, on l'a interdit parce que c'est nuisible. Bah, bah, là, on était dedans déjà avec la loi l'interdiction de fumer dans les lieux publics, et on y est avec le pass sanitaire. On y est en plein.
Ouais.
On est en plein dans la définition de la nuisance.
Tout à fait.
Alors, après, on peut débattre. Est-ce que c'est... Alors, par exemple, pour le pass, on va dire c'est nuisible. Si je vais dans un établissement que les gens ne sont pas vaccinés, c'est nuisible. Bon, hey, mais... Alors, on peut débattre sur, on peut débattre au niveau médical en disant non, c'est pas nuisible, parce que si vous n'êtes pas vacciné, c'est plutôt vous qui êtes en danger. C'est pas celui qui est vacciné. Mais moi je veux débattre sur le truc juridique, c'est-à-dire que donnez-moi une définition de la nuisance. Alors, dans le cadre. Alors, donnez-moi une définition de nuisance, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un principe qu'on puisse décliner dans tous les cas. Une définition de la nuisance, c'est pas une énumération dans tel cas. C'est ça qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas mettre un principe. Voilà. Et c'est là qu'on dit objectivement mesurable. C'est-à-dire qu'il faut que la nuisance. Alors, dans le cas, par exemple, passe sanitaire, on peut interdire avec le programme pour une société de la pré-croissance, on peut interdire à certaines personnes d'entrer dans un restaurant, pourquoi pas, au niveau de la loi générale, cette fois, bon, si on prouve la nuisance. Nuisance objectivement mesurable, est-ce que le fait de rentrer dans un restaurant sans être vacciné, est-ce que ça crée une nuisance objectivement mesurable? La réponse, elle est non.
Ouais.
Donc, c'est clair.
Tout à fait.
Alors que là, la loi, c'est 140 personnes qui l'ont votée, et demain, il peut y avoir 140 personnes qui votent le contraire. Hein.
Oui.
Donc c'est l'arbitraire. Ouais. 140 personnes qui décident une telle empêchement de la liberté individuelle, c'est de l'arbitraire. Ouais. Sans se fonder sur quelque chose d'objectivement mesurable.
Ouais.
Donc on est vraiment avec l'ERP, on a avec l'intrusion de plus en plus importante, mais bientôt les commerces pourront plus fonctionner.
Ah oui, si ça continue comme ça, ça risque d'être compliqué. Mmh.
Puis ça devient un enfer.
Ouais.
Travailler avec un masque, filtrer les clients, enfin c'est la Gestapo, hein. Et puis ça c'est plus les descentes de police. Ouais. Les gars qui arrivent avec le flingue et puis qui. Parce que évidemment, ils sont très forts, donc ils pénalisent pas. Le client n'est pas responsable. Celui qui est responsable, ouais. c'est le restaurateur. C'est-à-dire, s'il y a une vérification, on va vérifier, ah, monsieur, vous n'avez pas votre passe, oh, non, oh, ben, c'est circulé, c'est vrai, tu crains rien. Alors, ils ont une telle trouille, et on les comprend, hein. Ils ont une telle trouille que, ils vérifient, c'est pas qu'ils sont d'accord. Hein. C'est vraiment l'état policier. Alors, les contrôles, ça fait penser à la Gestapo. Vous savez, qui descendait dans les. Qui faisait des descentes hein, dans les restos, qui demandait les cartes d'identité, puis qui embarquait avec un panier à salade derrière.
Non, mais c'est tout à fait ça.
Et ce que je conseille aux manifestants dans le pass sanitaire, c'est que il ne s'agit pas de manifester contre la vaccination, c'est complètement ridicule. La vaccination, elle n'est pas obligatoire. Bon, on verra. Bon. Le jour où la vaccination sera obligatoire, on pourra manifester pour la liberté de la vaccination. C'est pas le cas. Bon, et aujourd'hui, ceux qui manifestent pour le pass sanitaire, alors évidemment, les médias mainstream se font un plaisir de dire les anti-vaccins. Non, les anti-vaccins. Moi, je suis pas vacciné, je suis pas anti-vaccin. Je suis sur la ligne Raoult, c'est-à-dire que le vaccin, il peut être utile, notamment pour les gens qui sont en comorbidité, les gens très fragiles, il est utile parce que éventuellement s'il attrape le Covid, il sera peut-être moins fort. Voilà, ça. Donc il ne s'agit pas d'être anti-vaccin. Bon, et il ne s'agit pas non plus d'être anti-pass. C'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Il ne faut ni dire qu'on est anti-vaccin, ni anti-pass. On n'est pas anti-pass. Le pass, pourquoi pas? Pourquoi pas? Celui qui n'a pas envie. Moi, je ne me mélange pas. Je ne vais pas là où il y a du monde. Je ne vais pas. Bon. Hein, donc, celui qui a un établissement et qui ne veut pas. Qui est des gens non vaccinés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Laissons la liberté à celui qui a un établissement et qui ne veut faire entendre son établissement que des vaccinés, laissons-lui la liberté de le faire. Voilà. Donc le débat n'est pas anti-vaccin, le débat n'est pas anti-pass, le débat il est anti-légiféré par l'État dans les ERP. Il est là le débat.
Ouais.
Parce que là, ils ont beau jeu de tourner en ridicule les anti-vaccins, ou de les stigmatiser d'ailleurs, de les faire passer pour des mauvais citoyens, de les faire passer d'ailleurs de pénaliser le fait de dire que tu es anti-vaccin ou de dire que tu es anti-pass. Ils sont sur un terrain tellement facile, tandis que si tu les attaques sur un terrain en disant « Attendez, mais il faut arrêter maintenant de légiférer dans l'espace privé. » Alors là, ils vont dire « Attends, qu'est-ce qui se passe là ?» Tout là. Et là, ils sont sur un terrain beaucoup plus difficile, beaucoup plus hard pour eux. Hein. J'ai en prévision de faire quelque chose là, au niveau des ERP, parce que maintenant, ça prend...
Et en posant une question, une CP de prioritaire
consultant. Ah ben oui.
Alors, mais après, c'est pareil, ceux qui l'étudient, c'est les complices.
Ouais, mais alors, bon, il faut revenir à ça, effectivement. La QPC, la question préalable de constitutionnalité. Parce que tout part de la loi du, je crois, 22 février 2020, la loi d'état d'urgence. Le Sénat, lorsqu'il a validé la loi là sur le pass, il a dit attendez, on valide, mais c'est parce qu'il y a la loi d'état d'urgence. Hein. S'il n'y avait pas la loi d'état d'urgence, c'est des lois qu'on accepte parce qu'elles sont sous le chapeau de la loi d'état d'urgence. Donc le pass, ça n'est, je dirais, qu'une externalité négative d'une nuisance beaucoup plus importante qui est la loi d'état d'urgence. Et cette loi d'état d'urgence, lorsqu'elle a été votée, pareil, hein, elle a été votée par une poignée de mecs au milieu de la nuit, bon, s'est posée la question de la QPC. Bon. Et malin comme un singe, donc machin, là, celui qui était premier ministre, qui n'est plus là, Édouard Philippe, il a dit oh ben attendez, je vais la poser moi je vais saisir conseil constitutionnel. Mais il l'a posé pas dans les règles, enfin trop tôt, je me souviens plus les détails. Il y a que l'hebdo Marianne qui a dénoncé le truc. C'est-à-dire qu'il a pris de vitesse tout le monde, il a fait la QPC, les copains du Conseil constitutionnel On dit ouais, c'est bon avant même d'avoir lu. Enfin, c'est bon, c'est,
ouais.
La procédure de la QPC déclenchée par Édouard Philippe dans le cadre du vote de la loi d'état d'urgence n'est pas conforme. C'est la procédure qui n'est pas conforme. Tu vois un peu le truc. Bon.
Ouais.
Mais bon, il n'y a que Marianne qui a ils ont soulevé le lièvre et c'est parti aux oubliettes comme ça. Bon. Ce qu'il faut faire, c'est reposer la question de la constitutionnalité de la loi d'état d'urgence. Parce que la loi d'état d'urgence, elle doit s'appuyer sur un article de la Constitution. Or, il n'existe pas cet article. Dans la Constitution, il n'y a que l'article 16 qui prévoit une loi d'état d'urgence. Même De Gaulle n'a jamais osé l'utiliser, l'article 16. On a dit la Constitution de 58 est une constitution dictatoriale parce qu'il y a l'article 16, etc., etc. Bon, ça, c'était suite au putsch des parachutistes à Alger, etc. Bon, mais même De Gaulle n'a jamais osé utiliser l'article 16. Mais l'article 16, il dit « si la patrie est en danger, si l'intégrité du territoire... » Enfin, tu vois, c'est un truc énorme. Bon, il n'y a rien. Et donc, cette loi d'état d'urgence, elle a été votée, en fait, ils ont ressorti un vieux truc qui n'a aucun fondement constitutionnel, une espèce de loi qui traînait comme ça. Bon. Donc, elle est facilement démontable pour peu qu'il y ait une organisation tant soit peu structurée et qu'il y ait tant soit peu des moyens, hein, qui veuille engager la bataille juridique avec l'État. L'État vient aujourd'hui de perdre dans une procédure de pacotille, d'opérette, de guignolade. Il vient de perdre. Alors, il était condamné à payer 10 millions d'euros parce que pour le CO2, il n'avait pas respecté son truc de CO2 par un tribunal de je sais pas lequel. Bon, voilà. Ça, entre parenthèses, il y a 3 ou 4 associations, les Amis de la Terre, ils sont tranquilles. Hein. Ils peuvent embaucher des secrétaires, des directeurs, des DRH. Ils sont tranquilles parce que alors du coup Oxfam est pas content parce que ils vont l'État a diminué les subventions pour les autres ONG. Enfin bref. Il faudrait déclencher voilà une bataille juridique intéressante. C'est autre chose que d'aller défiler dans les rues en disant Macron on est là. Non, là, déclencher une bataille juridique l'État pour à propos de cette loi d'état d'urgence qui n'a aucune assise constitutionnelle et qui a été validée par les copains du Conseil constitutionnel. Voilà un chantier intéressant qu'on pourrait, pourquoi pas, plutôt qu'on ait, parce que bon, on n'en a pas parlé nous dans le cadre de la décroissance de trucs sanitaires, mais plutôt que de hurler avec les loups contre la vaccination, contre le pass, il faudrait attaquer carrément la constitutionnalité de la loi d'état d'urgence. C'est un combat, à mon avis, qui en vaut la peine parce que il ébranle vraiment les fondements arbitraire de la façon de faire de l'État actuel. La liberté négative, c'est j'ai le droit de rentrer dans un lieu privé qui m'accepte. Bon, alors là, ce qui est faussé là-dedans, c'est que la loi, en fait, sur le pass sanitaire, elle contraint le propriétaire du lieu. C'est pour ça que les gens sont perdus là, ils comprennent pas, ils comprennent pas ce qui se passe, hein, parce que généralement la loi s'applique sur le clampin moyen, voilà, il y a le clampin et le flic, voilà. Bon, c'est la loi qui s'applique sur toi et c'est le flic qui est là. C'est exorbitant, c'est de droit exorbitant, ça s'est jamais vu. Là, c'est le propriétaire de l'établissement qui fait flic.
Non.
Alors, les bon, moi, je connais un certain nombre, tout le monde connaît ça, un certain nombre, ils sont, pour moi, parce qu'ils sont d'une part, ils ont la trouille d'être sanctionnés, parce que les sanctions sont annoncées comme étant astronomiques, 45 000 euros, 1 an de prison, enfin, tu vois le genre. D'ailleurs, il y a récemment un gars, un sénateur, qui a dit attendez, ne trouvez pas que c'est un peu disproportionné, il faudrait quand même, quand on fait des trucs, il faudrait quand même proportionner un peu le machin. Il y a quelque part dans la jurisprudence, il dit qu'il faut que ce soit proportionné. Bon, j'ai vu ça qui est sorti, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Bon. Donc il y a ça, ils ont la trouille de se faire foutre en tôle. Et puis ils sont perdus parce que ils savaient pas que la loi pouvait obliger un professionnel à être flic.
Alors les clubs privés là un peu de riches là, de cigares et tout là, c'est pas des ERP?
Alors très bien. En fait non. Alors la loi, justement j'ai eu un débat ce matin là. Cette loi que j'ai appris par cœur, la loi machin truc chouette là, bon numéro de temps, elle ne parle pas des lieux privés. Alors comme je les connais, comme si je les avais fait, est-ce que c'est une omission ou est-ce que c'est volontaire? Je pense que c'est volontaire parce que les gens sont dit, mais il y en a des qui vont regarder, ils vont dire oui, mais si c'est un événement privé dans un lieu privé, tout ça, non mais on n'en parle pas parce que de toute façon ils vont avoir la trouille. Et ils vont dire, dans le doute, je m'abstiens. Mais, si tu lis la loi ne parle que d'établissements recevant du public. Elle parle de l'espace public ou d'établissements recevant public, dans lesquels il y a un contrôle d'accès qui est donc lié à un établissement public où tu arrives avec ton billet, j'ai mon billet, donc vous pouvez rentrer. Bon. Par contre, tu organises chez toi une teuf avec 200 personnes, tu as le droit de le faire. Là. C'est moi qui le dis. C'est moi qui ai dit le droit de le faire. Mais personne ne va oser le faire parce qu'il va se dire, oui, mais attends, là, j'ai plus de 50 personnes. Mais regarde la loi. Non, mais il ne faudrait pas qu'on vienne me foutre un an en tôle et 45 000 euros d'amende. Et voilà dans quel état de fascisme, de tyrannie on est.
Oui, je disais, ça va être le rapport social, le rapport de force sociale d'habitude qui va jouer. C'est-à-dire que les clubs privés riches qui ont la connaissance oui. de la loi,
c'est ça.
Tout le monde connaît,
c'est exactement
les flics ne vont jamais emmerder.
Ça a commencé déjà, hein, ça a commencé. Hein. Ça a commencé. Alors, par contre, ce qu'il faudrait. Ouais, mais ça, bon, ben.
Parce que eux, ils sauront vraiment ce que dit la loi.
Oui, mais. Oui, et puis si, ils sauront graisser la patte de la.
Pourquoi j'ai coupé tous les micros?
Pardon, j'ai coupé.
Il fait quoi?
Non, c'est moi. Ils sauront graisser la patte de la police municipale ou machin, puis ça dépend aussi des polices municipales. Tu as Racheline à Fréjus, il a dit moi, vous faire foutre, mes policiers municipaux n'iront pas contrôler, vous les restaurateurs pouvez recevoir qui vous voulez. Voilà. Mais ce qu'il faudrait faire, au lieu, ce que je dis aux gens, là, cet après-midi qui va défiler samedi, je dis écoute, bon, défiler c'est très bien, là. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au sein de la corporation syndicale des restaurateurs, etc. Bon. Parce que tout seul, un restaurateur, il ne va pas. Et on comprend bien, il ne va pas dire non, moi j'accepte quand même. Non. Il faut qu'il y ait un courant au sein de la fédération, et elle est puissante, hein, la fédération des restaurateurs, qui dit on n'est pas d'accord avec la loi. Bon, quitte à ce que le leader aille en tôle, qu'est-ce qu'il a fait, José Bové, avec la FNSEA? Il a créé la conf paysanne, il a dit, ça suffit, maintenant les lois, bon, hein, nous on est contre ça et ça et ça, on fait des actions, je vais en tôle, j'ai les menottes, je mets les flashs, hop, regardez, je fais un lever de menottes, et c'est parti. Bon, et on obtient un truc. Bon, donc ce qu'il faut, lancer l'idée, c'est qu'il y ait au sein des syndicats de restaurateurs, parce que tout seul, bon, par contre, si ce groupe qui font une caisse, Hein, que voilà, ça cotise. C'est-à-dire que le gars qui se fait gauler, qui prend 45 000 euros, paf, c'est la caisse qui paye. S'il est, s'il a un procès, il y a un avocat qui vient le défendre, et puis ça fait une cause nationale, on en parle à la télé et tout, et ça leur fait péter à la gueule leur truc de passe sanitaire. C'est ça qu'il faut faire plutôt que d'aller défiler, casser du Macron. Ça mène nulle part. Voilà. Il faut qu'il y ait un groupement professionnel qui fasse de la résistance, comme ça s'est fait dans d'autres professions, comme la Confédération paysanne a fait avec José Bové pour un certain nombre de contraintes voilà, agricoles. Ça, c'est une idée à lancer, quoi. Parce que là, on est sur une première, sur un fait générateur. On a jamais obligé une profession à remplacer les flics. Hein. Seulement, il y a une telle trouille, il y a une telle soumission, les gens, mais sont morts de peur. Alors, déjà qu'ils sont morts de peur par rapport aux microbes qu'on a surdimensionné, machin et tout. Ils sont morts de peur maintenant par les sanctions qu'on annonce. Bon, s'il n'y a pas une résistance, mais pas une résistance. Après, bon, que les gens défilent dans la rue, c'est bien, ça veut dire. Mais là, il faut que la résistance devienne juridique.
Ça marche. Mais peut-être que ça viendra des États-Unis ou des pays anglo-saxons qui sont plus libertaires individuels que nous.
Ben non, mais eux, ils n'ont pas de passe sanitaire. Ils n'ont pas de.
Oui.
Ils l'ont pas. Il y a que nous et les Italiens. Alors les Italiens, c'est la combinazione, c'est-à-dire que en Italie, il n'y a pas d'État. En France, il y a un État hyper fort. Depuis Louis XIV, on est les champions de l'étatisme. Hein. Faut voir un peu. En France, comme ça file doux. On dit le français, il est tire au flanc. C'est faux. C'est français. Il n'y a pas plus soumis à l'État que le français. Par contre, l'Italien, il y est habitué. Déjà depuis des décennies, d'abord l'Italie c'est pas un pays, c'est un ensemble de mosaïques de trucs. Bon, il est habitué à qu'il y ait une loi, mais on se débrouille comme il se débrouille. Bon, donc il y a le pass sanitaire, mais il y a des. Bah, suivant les endroits, les gars ne demandent pas, les flics s'écrasent. En France, c'est la chape de plomb, faut voir un peu.